j'avais tellement aimé le Mexique que, tu sais, aller dans un à Miami qui est très party, qui est très loud, qui est très obnoxious, c'était vraiment pas mon vibe. Fait que je pensais vraiment fort à comment j'allais passer mon temps là-bas pour me changer les idées. Comme j'avais réussi à le faire au Mexique, au cas où que ça fonctionne pas. Et là, j'ai vu que c'était la capitale mondiale des requins. Fait que là, j'ai dit, ah, je vais devenir une master diver et je veux faire une spécialisation en conservation des requins.
moi, personnellement, c'est ça.
On t'en verra jamais dans l'eau.
C'est ma bière.
Ouais, exactement.
Bienvenue à notre podcast de Sœurs de ta niche, le podcast où est-ce qu'on découvre des communautés et des passions très nichées. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous avez votre animateur Dope More avec vous.
Avec votre boy Bouchard, what's up? Hey man, cette semaine, on a une mannequin d'exception.
Quoi d'autre?
On a une courtière immobilière hors pair.
Quoi d'autre?
On a une maître de sa niche. Kim Bruno.
Hey, bonjour. Salut les gars.
La maîtresse de sa niche, what's up?
Merci, merci.
Ça va bien, Kim?
Ça va très bien, je suis contente de vous voir.
Mais merci d'être là. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation.
Très occupé, hein, on sait. Fait que,
ouais, quand
c'est
même,
cool que tu prennes
le temps.
Mais c'est
dimanche, tu sais. Fait qu'au moins, ça passe bien.
Ouais, c'est... Hey, on est jeudi! Ouais. Non, pas vrai. On n'a pas encore choisi de journée. On va essayer de faire ça dimanche maintenant.
Ouais, peu importe.
À ce temps que c'est dit, on va dropper ça les dimanches, les gars.
Je pense pas qu'il y a personne qui pense que c'est live. Là.
Non, aucunement. Aucunement.
La prise à magie.
Non, mais c'est ça. Pour dire, on parlait un peu tantôt. Et lorsqu'on cherche des invités, on veut toujours s'assurer d'avoir quelqu'un, une personne qu'on pense qui va être intéressante, une personne qui a des choses à nous apprendre. Et c'était quand même exceptionnel de voir comme ton profil une fois que je suis tombé, parce que je te connaissais pas avant d'avoir commencé à faire la recherche. Et est-ce qu'on peut commencer avec ça? Est-ce qu'on parle avec...
Ouais, on va commencer avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça.
Moi, je
trouvais ça quand même assez impressionnant parce que j'ai vu que tu avais un record Guinness. Si on peut commencer. Et est-ce que tu veux, je peux te laisser.
Quelle belle entrée en matière. Il se demandait si tu devais commencer avec ça.
Non, mais parce que tu
commences avec ça.
J'étais comme, est-ce que je donne? Moi, je trouvais ça vraiment cool. Après, je me suis dit, c'est nice. Mais des fois, tu peux avoir un record Guinness, mais après, tu n'as rien d'autre vraiment qui se passe. Tu as juste fait un record Guinness parce que ça tente. Tu décides que tu es la personne qui peut manger le plus de hot dogs en 60 secondes.
Puis c'est pas ça.
Non, mais...
C'est
pas ça. Excuse, c'était 80. 80.
mais par contre, une fois que j'ai allé plus loin dans ton profil, j'ai vu qu'il y avait encore plein d'autres choses. Mais on va... Une chose à la fois, est-ce que tu veux nous parler de ce record?
Oui, c'est ça, dis-nous-le.
Ouais, ben écoute, dans le fond, j'ai le record Guinness de la plongée. C'est le photoshoot en plongée le plus profond qui a été jamais réalisé dans le fond de l'océan.
Nice.
Puis c'est drôle parce que, dans le fond, on s'en parlait un peu backstage, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent aussi mon parcours en fertilité. Donc, j'ai voulu avoir un enfant. On m'a dit que j'étais pratiquement infertile. Et à travers mon périple, bon, je me suis fait traiter au Canada, ça n'a pas fonctionné. Puis à un moment donné, je me suis ramassée au Mexique et j'ai essayé des traitements qui étaient un petit peu plus agressifs là-bas, qui n'étaient pas offerts au Canada.
Quoi agressif là-dedans?
Ben, c'est juste qu'ils vont utiliser des médicaments ou des formules qu'on n'utilise pas ici.
Okay.
Puis ici, j'avais l'impression qu'on faisait toujours la même chose en espérant un résultat différent, puis ça fonctionnait clairement pas. Tous mes ovules que j'avais congelés étaient morts. Ça avait été vraiment, vraiment difficile ici. Donc, en allant là-bas, je savais que j'avais très peu de chances de réussir, mais c'était pendant la COVID. Donc, c'était au début de la COVID. Je me disais, quand est-ce dans ma vie que je vais être en arrêt de travail pour pouvoir quitter pendant plusieurs mois? Probablement jamais. On n'en revivra peut-être, en tout cas, j'espère pas, d'autres pandémies. Mais en allant là-bas, ils m'ont dit, t'as pas beaucoup de chances que ça fonctionne. Fait qu'à ce moment-là, t'as deux choix. T'es dans un mindset où... Tu sais, tu te fais des milliers d'injections, tu es toujours à la clinique, tu te fais des opérations, tu te fais sortir les ovules du corps. Tu sais, le roller coaster émotionnel de ce processus-là est physique et mental est quand même très drainant et financièrement et tout. Mais je me suis dit, je veux pas que ce soit juste ça. Je sais que ça pourrait peut-être pas marcher, mais je vais essayer de profiter de mon expérience là-bas au maximum. Tu sais, fait qu'à chaque fois que j'étais pas à la clinique, je mettais ma main sur la map, puis je prenais une voiture, puis j'étais comme, je m'en vais là aujourd'hui. Je découvre une nouvelle ville, je découvre quelque chose de nouveau. Puis à un moment donné, la pollution à Mexico City, j'étais à Mexico City, me rendait malade. Fait que je suis déménagée sur la côte ouest. Et bizarrement, j'avais juste j'avais déjà, j'étais venue, mais quand j'étais plus jeune. Mais tu sais, sur la côte est, c'est des plages blanches, l'eau est turquoise, tandis que la côte ouest, ben, c'est très rocheux. Il y a beaucoup de vagues. Puis je me disais, pourquoi le monde, ils viennent ici? Qu'est-ce qu'ils font? Je me suis rendu compte que comme il y avait beaucoup de vagues, les gens surfaient. À ce moment-là, ça fait peut-être 3 ans de ça, 3-4 ans, j'ai zéro expérience en plongée ou dans l'eau ou quoi que ce soit. J'ai fait du snorkel une fois. Je commence à faire du surf et j'ai un gros accident où je passe près de me noyer. Je sors quand même assez blessée.
Qu'est-ce qui
t'est arrivé? Il y a un gars qui m'a rentré dedans en surf sur une vague, puis il y avait un board très dur. Il m'a rentré dans le tibia, puis je suis tombée en dessous de l'eau, puis j'ai roulé. Je me suis cognée sur des rochers. Je me suis même rentré un oursin qui m'a passé à travers le doigt avec son pied. C'était comme tout ensemble. J'avalais beaucoup d'eau, mettons. Là. Même que mon prof, après ça, quand il m'a vu sortir de l'eau, il a fait « J'ai pas l'impression qu'on va te revoir ici. » Puis écoute, à ce moment-là, j'étais même pas capable de parler. L'eau me sortait du nez, du cerveau. J'étais comme « Ah! » Mais je suis très orgueilleuse. J'ai fait « Tu vas me revoir. » J'ai dit « D'après moi, j'en ai pour au moins 2 semaines à pas être capable de fonctionner. » Mais j'ai dit, je vais revenir. Puis, entre-temps, j'ai fait des recherches sur Internet. Puis, je me suis dit, qu'est-ce qui te rend le meilleur en dessous de l'eau? C'est pas nécessairement de la plongée sous-marine avec une bouteille parce que quand tu t'en vas en surf, t'en auras pas. Ouais. Donc, je me suis dit, j'ai découvert l'apnée. Donc, l'apnée, c'est de retenir ton souffle le plus longtemps en dessous de l'eau, puis d'aller le plus profond possible. Fait que j'ai trouvé un professeur là-bas. J'ai commencé à faire des cours d'apnée. Et la première fois qu'il est venu chez moi, c'était un cours dans une piscine pour la première fois. J'ai retenu mon souffle pendant 3 minutes et demie. Fait qu'il m'a dit, il dit, pour quelqu'un qui n'a pas de pratique, qui n'a jamais fait ça, t'as une certaine habileté. Fait qu'il dit,
Certaine habileté à 3 minutes et demie, quand
je sais même pas si c'était 35 secondes. Je pensais même pas que c'était faisable.
Ah, écoute, oui, là, c'est pas impressionnant pour un apnéiste. Okay. 3 minutes et demie, c'est même pas la base, là. Il faut que tu te rendes à 6, 7, 8 minutes. Il y en a qui le font plus longtemps. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer avec ça. Puis c'est un peu de la méditation en dessous de l'eau. Fait que j'ai trouvé que à travers mes traitements, ça me calmait beaucoup d'être en dessous de l'eau.
Okay.
Mais mon prof me disait, écoute, je te verrais faire de la compétition, tu sais, je veux qu'on te pousse. Puis j'étais comme, non, moi, j'aimerais ça aller en dessous de l'eau, mais genre être un poisson. J'aimerais ça aller avec les dauphins, les raies, les requins. J'aimerais ça comme juste explorer les fonds marins, tu sais. Fait que parallèlement, j'ai commencé à faire des cours de plongée sous-marine. Puis ça a été tellement fou parce que à chaque fois, comme je vous disais, que j'étais pas à la clinique, je me levais le matin, je mettais mon doigt sur la map, j'allais rencontrer des locaux, puis je leur disais, amenez-moi à quelque part de cool, tu sais. OK, on va aller nager avec des raies mébula. Il y a des 3000 raies, man, avec des pods de dauphins, de 60 dauphins, et courir après des épaulards, tu sais.
Ça doit être magique.
C'était fou raide, là. Fait que je suis revenue pas d'enfant, mais le cœur vraiment plein d'expérience, la tête pleine d'expérience. Donc, ça n'a pas été négatif.
OK.
Puis, j'ai ramené un petit chien que j'ai adopté là-bas aussi. Et à suite de ça, quelqu'un m'a dit, va voir un docteur aux États-Unis, en Floride. Je suis allée là-bas. Mais j'avais tellement aimé le Mexique que, tu sais, aller dans un Miami qui est très party, qui est très loud, qui est très obnoxious, c'était vraiment pas mon vibe. Fait que je pensais vraiment fort à comment j'allais passer mon temps là-bas pour me changer les idées. Comme j'avais réussi à le faire au Mexique, au cas où que ça fonctionne pas. Et là, j'ai vu que c'était la capitale mondiale des requins. Fait que là, j'ai dit, ah, je vais devenir une master diver et je veux faire une spécialisation en conservation des requins.
moi, personnellement, c'est ça.
On te reverra jamais dans l'eau. Tiens, ma bière.
Ouais, exactement. Wow.
Genre, où est-ce qu'il y a le plus de requins, c'est où est-ce que je veux pas être.
Ouais.
Sauf que tu t'es dit, oh ouais, ça, je vais le faire. Ça, c'est cool.
Puis, nice. C'est comme l'Internet, on chiale souvent sur les algorithmes, ce que tu fais pousser, mais tu sais, plus tu regardes des choses de l'océan, plus tu fais pousser des choses de l'océan. Fait que je me suis fait pousser une photographe sous-marine qui était au Bahamas, puis je lui ai écrit. J'étais comme, salut, on se connaît pas, mais ce que tu fais m'intéresse. J'aimerais ça qu'on essaie, voir si j'ai comme une habileté à faire ça. J'étais comme, je suis pas loin, c'est 2 heures d'avion, là. C'est comme 1 heure et 20 d'avion. Fait que j'ai dit, je m'en viens. Fait que j'ai pris l'avion, je suis partie au Bahamas, puis elle et moi, on a commencé à shooter. Puis à un moment donné, ça l'a cliqué. Fait que là, on a dit, on va commencer à faire des shoots avec des requins, voir, parce que tout ce que j'avais appris dans mes cours avec les requins, c'était, bon, évidemment, de pas bouger tes doigts qui a de l'air des poissons, de pas avoir les cheveux lousses, d'être habillé en noir, de pas porter certaines couleurs. Fait qu'on est allé s'habituer à certains pods de requins, puis ensuite, on a voulu comme défaire les mythes. Fait que, tu sais, j'ai shooté avec ces requins-là, en robe de soirée, les cheveux lousses, avec les bras dans les airs.
En bougeant les doigts comme ça.
On les appâte avec des poissons, on les fait venir à nous. Puis c'était vraiment magique et épeurant.
Ben là, c'est ça.
Puis c'était un mix d'apnée, mais de plongée sous-marine, parce que c'est sûr qu'en apnée, t'as un certain timing.
Ouais.
Puis quand tu fais de la photo sous-marine, si tu veux que ce soit beau, comme des photos de mannequins, ben il faut que tu places tes cheveux, sinon ils vont être de même. Ta robe, ben ça prend des poids en dessous pour que tu restes au fond. Faut que tout est comme placé pour la photo parfaite. Sinon, ta robe, elle vole, tout part.
Mm-hmm.
Fait que de juste le faire en apnée, c'était pas vraiment possible. Fait qu'on descendait en plongée sous-marine, puis une fois en bas, on enlevait tout l'équipement, puis là, je retiens mon souffle.
Wow!
Fait qu'il y a quelqu'un... En tout cas, pour terminer ce petit chapitre-là rapidement, j'ai vraiment trippé à faire ça. Le danger de tout ça, évidemment, c'est qu'une fois que t'es en dessous de l'eau, puis que tu retiens ton souffle, tu tombes en protocole de plongée sous-marine, tu peux pas remonter à la surface. Fait que si tu manques d'air ou s'il y a un problème... Tu peux rien faire. Il faut vraiment que tu comptes sur ton équipe. Fait que mon équipe, eux, ont leur tank, leur masque, ils sont bien. Puis moi, je suis là, j'ai rien. Je vois pas parce que j'ai pas de masque en dessous de l'eau. Puis je dois compter sur mes partners pour qu'eux regardent mes signes vitaux. Puis fassent, OK, elle va manquer d'air, on va les porter de l'air.
Puis il y a des requins. Je veux juste rappeler qu'on est toujours parmi les requins. On s'en oublie.
Est-ce qu'on s'écrit comme genre ton état d'esprit, c'est comme un rush d'adrénaline ou sinon vraiment un focus en ce moment-là?
Le rush d'adrénaline, je te dirais, il vient avant, juste avant de le faire, puis juste après. Mais pendant, quand t'es dedans, c'est vraiment, t'es dans un focus total. Faut que tu regardes les comportements, faut que tu regardes, tu sais, où ils se promènent, faut que tu penses à où la caméra, faut que ce soit beau, faut que ce soit gracieux, place ta robe, place. Il y a tellement de choses à penser que t'as pas vraiment le temps d'avoir peur ou de vivre un moment d'adrénaline. Puis c'est drôle parce que c'est ce qui me rendait heureuse de faire ces choses-là. Puis, dans mes traitements de fertilité, j'avais essayé de l'acupuncture, j'avais des healers, de la méditation. Il n'y a rien qui marchait. Puis le monde me disait, va pas plonger, tu sais, la pression, ton ventre, tatata. Puis en fait, c'est quand j'ai un peu comme tout laissé aller, puis j'ai juste dit, je vais laisser faire les herbes chinoises, puis les tisanes de ci, puis ça, puis comme je vais me concentrer sur ce que j'aime, puis c'est là que je tombe enceinte.
Wow!
What?
Quand je tombais enceinte, je me suis dit, j'accroche mes palmes, là. C'est sûr que je ne mettrai pas... j'ai fait 66 embryons malades ou non viables avant de...
En combien d'années, ça?
Le total a été 5 ans, mais il y a eu des périodes où j'ai arrêté aussi entre ça.
Okay.
Fait que je n'étais pas pour risquer quoi que ce soit. Je suis retournée prendre des photos enceintes en dessous de l'eau qui sont absolument magnifiques. Puis quand ma fille avait 6 mois, j'étais au chalet, il y a quelqu'un qui m'envoie le record Guinness d'un photoshoot en dessous de l'eau. Puis je fais, c'est nice. Vraiment cool. Puis là, il y a une deuxième personne qui me l'envoie, puis je suis comme, là, c'est un signe. C'est un signe. Il faut que j'aille le battre.
Retiens, ma gueule.
Je suis comme là, c'est pas vrai que le monde va m'envoyer ça. Et que moi, je vais dire au monde, c'est cute. Non, j'étais comme, I'm gonna do that.
Hein?
Mais là, ça faisait un an et demi que j'avais pas plongé pour un an d'expérience. Fait que j'ai appelé ma photographe au Bahamas, j'étais comme, ça te tend-tu? Elle m'a dit oui. J'ai dit, OK. Puis là, j'étais là, t'es conne, t'as un bébé de 6 mois, man.
Ouais.
Genre, à quoi tu penses? Fait que je me suis pris un cours de plongée refresh à Montréal. Je partais 7 jours après.
Wow.
Fait que j'ai fait un refresh dans une piscine à Montréal. On est arrivé au Bahamas. Puis, tu sais, j'ai regardé mon équipe. J'avais déjà shooté avec eux. Je les connaissais. Puis, je leur ai dit, écoute, check. Je suis maman. Fait que sécurité, c'est numéro 1. C'est pas important le record Guinness. C'est pas l'importance. L'important, c'est qu'il m'arrive rien.
Ouais.
Le record, on peut revenir le faire aussi, là, si ça marche pas cette fois-ci, tu sais. Puis c'était vraiment la mentalité qu'on était dedans, fait qu'on s'était pas mis de pression, je l'avais pas trop advertisé non plus, tu sais. Je pense que je l'ai affiché la journée d'avant sur Internet. Mais le jour même, c'est comme si les astres
étaient allés. Pas qu'il y a du monde, là, tu sais, qui viennent, parce que, tu sais, j'imagine, comme, t'as un crowd, ils sont tous là pour regarder le record se battre, t'es comme, non, c'est que vous comprenez pas.
Puis, ben, je te jure, là, que la journée où on le fait, c'est la première fois et la seule fois de toute ma vie que j'ai vu l'océan clair comme un miroir. Puis c'était comme un signe. T'sais, on est allé shooter dans un abysse de 6000 pieds de profondeur. Mais 2 ans avant, j'avais shooté. Il y avait un bateau qui a coulé à cet endroit-là.
Wow.
Et le devant du bateau pend au-dessus de cette crevasse-là de 2000 mètres, 6000 pieds, whatever. Puis je me rappelle que j'avais pris une photo en avant du bateau, puis je m'étais pris comme ça, puis j'avais regardé l'abysse, puis j'avais fait « Wow! » Mettons là, que tu tombes là-dedans, c'est fini. Il n'y a pas, de lendemain. Là. Personne ne va retrouver ton corps. Personne ne va se rendre là. Puis 2 ans après, ma photographe, elle me dit « On va shooter, mais dans le trou. Tu vas être attaché sur les parois. » Puis il dit, ça va être débile parce qu'on va voir le bateau que t'as shooté, mais il est en haut de toi.
Waouh! Wow.
Fait que, ben oui. On a fait ça. C'était, écoute, on a été en dessous de l'eau 37 minutes au total. Dans ma tête, ça a été 5 minutes. Mm-hmm. T'es tellement focus, okay. Tu fais juste penser à qu'est-ce que tu vas faire, les étapes, ta. Puis après ça, ben voilà, on a eu notre record Guinness. Wow. C'est vraiment cool.
Non, mais c'est absolument incroyable. Est-ce que, ben, tu sais, comme je veux dire, à quel point tu peux contrôler comme les éléments du photoshoot une fois que t'es, tu comprends dire, parce que tu es dans le photoshoot?
Ben évidemment, tu vas prendre la journée sur le calendrier ou dans la semaine où il y a le moins de vent, le moins de courant. T'sais, ça, on le choisit. On fait des tests au préalable aussi. J'ai des plongeurs. Moi, je suis pas allée, mais mes plongeurs sont allés voir les lieux. Puis j'avais deux plongeurs de sécurité, dont un que sa job, c'était justement de... Ils sont deux à s'assurer que j'ai toujours de l'air, mais un qui vient puis qui me place aussi. Il va me dire, t'sais, parce qu'il fallait qu'on calcule, on était à combien de mètres. Puis c'est qu'à une certaine profondeur, tu peux pas rester là longtemps. À 40 mètres, tu peux être là 9 minutes.
OK.
Point. Fait que tu sais, t'as 9 minutes pour te placer, avoir ta shot, faire tes affaires. Fait que tu sais, il y a eu des paliers aussi. Tu sais, il a fallu qu'on fasse de la décompression. Tu sais, fait que j'ai vraiment une équipe qui se sont très bien occupés de moi, qui sont chevronnés, qui en ont fait beaucoup. Tu sais, j'aurais pas fait ça sans être une apnéiste certifiée puis sans être un master diver certifié non plus. Tu sais, j'aurais pas pris de risques inutiles.
Ouais.
Cette journée-là, on n'a pas plongé avec des requins. Tu sais, on avait un requin tigre qui rôdait autour. On l'a comme chassé avec le bateau avant d'y aller parce que c'était comme... On n'a pas le temps de gérer un requin plus un record du monde.
J'aurais jamais le temps de gérer un requin.
On est un requin près, là. T'es déjà avec les requins.
On va juste comme être intelligent dans ce qu'on
pauvre
fait.
Pauvre requin, il a été profilé comme non, pas toi.
Pas not today. Partie,
ça te dirait de parler, requin tigre.
Not today, sir.
Puis ça fonctionne comment pour les records Guinness, comme tu les appelles, puis tu leur dis...
En fait, j'avais vu le record. Fait que là, j'étais allée faire une recherche sur le site du Guinness World Record. Tu peux ensuite t'enregistrer pour demander un numéro d'application pour le battre. Ça te prend des juges, ça te prend des gens qui sont, tu sais, comme ça nous prenait des plongeurs qui sont certifiés, qui sont aussi, qu'on sait qu'elle allait être les juges. Ça te prend des témoins. Tu sais, après ça, tu as un processus où tu peux payer pour que ça aille plus vite. Mais tu sais, pour vrai, ça me tentait de le faire.
Que Guinness ne vient pas là, avec vous autres.
Ça dépend c'est quoi ton record. Okay. Mais si tu es capable de fournir des professionnels certifiés qui font des déclarations genre sous testament, là, c'est correct. Okay. Puis il faut que ce soit filmé. Faut pas que c'est filmé de quand tu es dehors de l'eau au complet, sans interruption. Sans, il faut vraiment, ils vont regarder toutes
la
les preuves.
De,
plus
comme
les
quoi,
gens qui signent.
C'est donc, fou pareil, hein? Ils s'assurent quand même.
Ouais, c'est quand même checké. Mais nous, on n'a pas payé pour que ce soit plus rapide. On l'a vraiment juste fait. Mais après ça, quand j'ai eu le record, tu sais, j'en avais parlé un peu sur mes réseaux sociaux la journée d'avant, mais j'ai quand même des personnalités publiques qui me suivent, tu sais, puis il y en a qui travaillent dans les nouvelles. Fait que là, ils m'ont écrit tout de suite, on veut que tu sois aux nouvelles demain, mais quand est-ce que ton record va être homologué? Puis là, j'étais comme... Fait que là, j'ai payé pour que ça aille plus vite. Là.
Moi, je vais payer. Finalement, j'ai payé. Là.
Mais j'ai pas payé pour avoir mon application plus rapidement. Ouais. Mais là, c'est parce que là, les médias m'appelaient, la télé m'appelait en France, au Québec, partout. Puis là, j'étais comme, OK, mais tu sais, je peux pas être celle qui a pas de record homologué.
De toute façon, payer pour que ça aille plus vite, moi.
Non, c'est ça. Ça. Fait que finalement, ça prenait, mettons, 2 semaines pour approuver le record au lieu de 2 mois.
Ouais.
Fait qu'on a fait ça, c'était vraiment une belle expérience. Puis là, les gens me disent tout le temps, so what's next? Mais je suis comme.
Prochain record, écoute, je vois carrément
la merde. C'est ça, mais c'est pas, tu sais, n'importe quoi dans ma vie, autant que ce soit en business ou en amour, tu sais, ma fille ou mes expériences de vie, c'est toujours comme un pourquoi pas, tu sais. C'était pas un but dans ma vie d'avoir un record Guinness. C'est moi, je vois une opportunité, je la prends, point.
Ouais.
Fait qu'à chaque fois que je vois une porte, puis tu sais, j'ai pas fait ça me tente pas de faire les cours. Non, je me suis tapé toutes les cours pour être master diver. J'ai tout fait. Et ça a été comme le point culminatif de tout ça, tu sais.
Ouais, mais quand même, tu sais.
Ouais, c'est spécifique.
T'as un record Guinness.
Ouais,
je connais,
c'est nice.
Je connais personne. On se connaît pas, mais je dis que j'ai jamais. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un qui a un record Guinness.
Non. T'sais.
Moi, c'est comme.
Tu c'est quelque chose qu'on peut.
Je vais regarder les records comme moi si je vais en battre un.
Ah, let's go!
Ça, c'est le genre de truc que je trouve malade.
Moi, je me rappelle quand j'étais un kid, genre, je lisais les livres de records.
Ben oui, moi aussi.
Je trouvais ça vraiment.
On n'avait pas l'Internet. Hein?
Ouais.
Une fois par année que le record, le livre des records Guinness arrivait, c'était le plus prisé à l'école.
Oh, moi, j'adorais regarder ça.
Oh,
Mais je sens un sens, un sens de compétition, genre, plus que tu me parles, que t'es un peu...
Je suis un peu compétitive.
Je suis sûr que c'est pas un peu, c'est beaucoup.
Ouais.
Hein.
Je suis très compétitive, mais beaucoup avec moi-même. Je pense que je suis exigeante avec moi-même. J'aime me donner des défis, j'aime les relever. Je dirais que je suis plus street smart que book smart. Moi, j'étais pas bonne à l'école, en fait, de mon passé... mon père est alcoolique, on a eu des problèmes, on était avec la DPJ, mon père était sur le bien-être social, c'est ma mère qui nous a élevés toute seule. Moi, je me suis rebellée jeune. T'sais, j'ai fait 3 écoles secondaires, je suis allée en prison, j'étais une tannante, je faisais de la drogue à 12-13 ans. Ça a été un long parcours, mettons, avant de me rendre où je suis aujourd'hui. Puis je pense que qu'est-ce qui m'a permis de me sortir de ça, c'est le jour où j'ai compris que personne allait me sauver puis qu'il fallait que je mette les efforts. Puis après ça, ça a été comme ça dans n'importe quoi dans ma vie, comme dans ma carrière en immobilier. Tu sais, j'ai pas un parcours typique en immobilier non plus. Je suis partie en commercial au début. La seule raison pourquoi j'étais allée en immobilier, c'est parce que c'était 3 mois d'école dans ce temps-là. J'étais comme, je suis pas sûre que je suis capable de toffer l'école plus que 3 mois. Tu sais, fait que c'était même pas genre un intérêt. J'aimais ça, mais tu sais, je me voyais pas vendre des maisons. J'étais allée en commercial parce que justement, je voulais pas vendre des maisons. Puis après ça, j'ai pas aimé ça. J'étais allée dans le médical. Tu sais, dans le fond, moi, je voulais faire de l'argent. Je voulais hustle. Je me suis dit, qui fait de l'argent? OK, les reps médicales font de l'argent. Dans ce temps-là, j'avais des amis qui faisaient ça. Ils étaient très bien payés. Mais, tu sais, ils avaient étudié. Ils avaient un bac en sciences en santé. 4 ans d'expérience en vente connexe. Moi, j'avais rien de ça. Mais je cognais aux portes. J'envoyais des CV vides. Des lettres de présentation, des CV vides. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui m'appelle puis qui me dit, je comprends pas. Il y a rien dans ton CV.
Wow.
Mais j'étais comme, c'est parce que si tu regardes mon CV, tu m'engageras pas. Je veux dire, mon expérience est en restauration.
Drop them. Ça, c'est une bars. Dans Battle Rap, c'est une bars. Hein? Ouais. C'est ça, t'allais dire aussi, hein? That's bars, bro. C'est comme, c'est fou, red.
Ouais,
ça,
c'est un comme, gros punchline. C'est sûr que tu m'engageras pas. Mais j'ai dit, si tu me rencontres, je te garantis que tu m'engages. Puis il m'a dit, parfait, je vais te rencontrer. Je me suis assise devant lui, puis j'ai demandé 10 000 de plus qu'il offrait. Puis après ça, j'ai dit, écoute, dans 6 mois, je vais être directrice des ventes. Puis il m'a regardé, puis c'était lui le directeur des ventes, fait qu'il a fait comme...
Attends une minute, là. Je commence à être nerveux. J'ai tendance à te croire, t'as quelque chose dans les yeux.
Il me regarde, puisque j'ai dit, t'as pas besoin de quelqu'un qui est à l'université, t'as besoin d'un bon vendeur.
Ouais.
Le reste, ça s'apprend. C'est du par cœur. Ton produit, c'est du par cœur. J'ai dit, hier soir, je suis allée étudier tous tes compétiteurs. Voici tes avantages, tes inconvénients. Puis là, il m'a dit, mais t'as du culot. Moi, je vais être où dans 6 mois? C'est moi le directeur des ventes. Mais j'ai dit, toi, tu vas être vice-président.
Je vais te rendre là, tu sais, comme...
Fait qu'il m'a regardé, il est parti à rire, puis il était comme, c'est beau, t'as la job, tu sais. Mais tout a été un peu un parcours comme ça, tu sais. Après ça, j'étais hôtesse de fin de semaine dans un projet immobilier neuf. Puis on n'apprenait pas le neuf à l'école dans ce temps-là. Puis un gars qui me dit, hey, il cherche un poste de directrice des ventes. Genre, c'est le premier gros projet à Griffintown, 45 millions. J'ai dit, ouais, j'ai jamais vendu de condo. Puis il me regardait, puis il était comme...
Ça s'apprend.
Puis moi, j'étais comme, puis peut-être hôtesse ou vendeuse. Puis il était comme, Puis là, j'étais comme, OK. Fait que j'étais allée pitcher pour la job, tu sais.
Wow, nice.
Sauf qu'une fois que je l'ai eu, j'ai travaillé plus fort que tout le monde. C'était pas, je l'ai eu, je m'assois sur mes lauriers, tu sais. J'ai travaillé 6 jours semaine. La 7e, je rentrais, puis je m'appelle plancher tellement j'étais grateful, tu comprends. Puis je donnais beaucoup plus d'heures que qu'est-ce qui m'était demandé parce que je me disais, absorbe, prends. Quand est-ce que tu auras une chance comme ça, tu sais? Puis ce projet-là, j'ai vendu 97 condos en 2 jours. C'était la folie furieuse.
J'ai une petite question, je vais pas te couper, mais c'est parce que je sais pas, j'ai comme peut-être pas assez de nourriture. C'est-tu un monde d'hommes quand même? C'est-tu.
Pas maintenant. Maintenant, non. C'est. Le commercial, oui, c'est encore très, très masculin. Je te dirais que maintenant, courtière, c'est moitié-moitié. Ouais. Les filles ont un beau succès là-dedans. Ouais.
Ça, c'est cool.
Ouais, ça se fait bien aussi. Tu sais, c'est une job qui est le fun. Tu sais, tu vas retirer ce que tu mets dedans. Oh. Fait que ça peut être une job temporaire, comme ça peut être une job à temps plein. Ça peut être, tu sais, ça peut être ce que tu vas choisir d'en faire, en fait. Mais c'est ça, tu sais, toutes les opportunités, ça a été ça. Celle d'après, le gars, il me dit, ah, j'ai entendu ce que tu as fait à ce projet-là. Ben, j'ai envie que tu fasses ça pour moi, mais il faut que tu fasses tout le marketing aussi. Mais je vais te payer plus. J'ai aucune idée c'est quoi du marketing. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit, ben oui, c'est sûr.
Of course, je vais te le faire, ton marketing.
I'm your girl, bro. I'm your girl. Ouais. Fait que là, j'allais voir qu'est-ce que les compétiteurs faisaient. J'allais sur YouTube, man. J'ai demandé à ma mère, à mes amis, puis je me suis débrouillée, puis j'ai vendu 180 condos en 4 mois. Fait que, après,
comment on fait ça? Comment tu vends ça à des groupes d'investisseurs? Tu vends ça à,
on avait vendu une partie à des groupes d'investisseurs. Mais oui, c'était Man-to-Man. Le début de Griffintown, c'était la folie furieuse. 2011-2012,
okay, ouais, hein.
2014-2015, Griffintown,
c'était pas
ça
encore.
Fait que, tu sais, j'ai eu des belles opportunités comme ça et tout dans ma vie a été comme ça. Je ne lâche pas jusqu'à temps que je réussisse.
Mais je pense que quand tu as eu un parcours là, où est-ce que tu as eu certains moments de ta vie qui étaient difficiles, je pense que ça te garde toujours derrière ta tête de,
ben ouais,
une obsession. Ben, je sais pas si obsession,
c'est pas une débrouillardise, une maturité émotionnelle, mais smart, tu sais, comme tu parlais, street smart un peu, c'est comme ce côté-là, je pense que quand t'as pas le choix, il faut que tu te débrouilles, ben après ça, c'est rendu c'est acquis, là. C'est là, c'est comme du vélo. Ouais. Fait que tu transposes ça dans le business, tu deviens un tueur, ouais, là.
Et dans tout, tu sais, je te donne un exemple. Quand j'avais 21 ans, j'étais partie chez ma mère, puis, je voulais décorer mon condo. Et je suis allée dans une galerie d'art, j'ai regardé les œuvres, puis j'étais comme, ah, ça, c'est vraiment beau, je vais prendre ça. C'est 15 000 $. Puis là, j'étais comme, OK. Wow. Je travaille à genre 13,50 $. Fait que ça sera pas ça. Mais j'ai fait, je vais peindre. J'ai aucune base d'artiste, mais je vais apprendre à être artiste. Et non seulement j'ai appris à être artiste, mais j'ai vendu des toiles à travers l'Amérique, tu comprends? T'sais? J'ai commencé à faire de l'art, puis à plein de choses. Parce que je
suis commencé comme décoratrice d'intérieur aussi, ou designer d'intérieur?
J'en ai fait ça aussi, oui. Ouais. J'en fais encore. Mais maintenant, je me concentre plus comme sur le flip immobilier. J'aime beaucoup travailler avec business to business versus business to client.
Ouais.
Donc, tu sais, quand tu as 18 000 agents immobiliers au Québec, comment tu te démarques? T'sais, c'est moi qui cogne à ta porte pour dire « Salut, tu veux-tu vendre ta maison? »
Ça a-tu boosté avec le COVID? Y en a-tu, parce que le COVID, là, ça avait l'air d'être comme la manne d'or. Ouais. Là, t'sais, fait que...
Et tous les gens qui ont rentré en 2021 pleurent leur vie maintenant.
Ah ouais?
Ben oui, parce que c'est pas Selling Sunset. T'sais. Les gens ils pensent que c'est la vie glamorous. Non, mais l'agent moyen vend genre 3 propriétés par année. Là, t'sais.
Ouais. Ah, c'est ça, tout est dans le livre quand même, right? Puis il y a des émissions aux States de tout ça. Là, c'est un peu pour ça, on parlait de la niche. C'est comme, au States, c'est quelque chose qui est rendu big, là, tout ça. Là, mais ici, c'est assez... certain petit groupe, j'imagine, qui est dans...
On n'a pas les propriétés les plus dispendieuses. On en a, là, mais je veux dire, on ne se compare pas à Vancouver, à ci, puis ça, puis ta commission est relative au prix de la propriété.
Mm-hmm.
Fait que quelqu'un qui vend une maison à 1 million, ben l'autre agent qui vend à 250 000, il faut qu'il en vende 4 pour faire la commission de 1.
Mm-hmm.
Fait que tu sais, il y a tout plein de choses qui viennent. Il y a beaucoup, c'est ton réseau aussi, c'est qu'est-ce que tu fais. Fait que moi, pour me différencier, parce que je pense que c'est la clé pour justement survivre à tous les types de... Tu sais, je faisais du condo neuf au centre-ville. OK, pendant la COVID, ça a fait ça. Ben j'ai acheté une agence. Puis au lieu d'aller directement avec des clients, j'ai fait, OK, moi, je vais approcher un fonds d'investissement qui a comme 200 millions de dollars de propriétés, mais je vais leur offrir pas juste de vendre, acheter, de flipper, de designer, de restructurer les propriétés pour que financièrement, je puisse les louer ou les vendre plus cher.
Clé en main, c'est pas juste l'expression. Là.
C'est ça.
C'est un vrai, le vrai.
Fait que j'ai fait, moi, je vais m'adapter, tu sais, je vais bifurquer, je vais aller faire des flips, je vais devenir développeur immobilier, comme présentement, je viens d'acheter 24 terrains en Estrie avec des partners, j'ai acheté un building sur Sainte-Catherine, je fais du commercial avec 16 condos en haut, tu sais, je me garde occupée, je diversifie. Pour que si jamais... Puis souvent, les gens, ils disent en affaires, beaucoup de conférenciers que j'entends, c'est focus sur une chose. Focus sur une chose, puis fais-les bien. Ah oui, d'accord, mais mettons que t'es pas en contrôle du marché, qu'est-ce qui arrive quand ça crash? T'sais, moi, j'ai plusieurs éventails, et ça me permet de, justement, quand la vente sur plan de condo a crashé à Montréal, j'ai fait... Cool, je me retourne de bord, je vais faire ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, puis ça va bien aller, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais rebifurquer par là si ça revient comme... Tu sais, je vais m'adapter. Jamais.
Mais ça fait du sens parce que ce qu'il disait, c'est de mettre tous tes œufs dans le même panier. Il me semble, c'est clair que c'est pas quelque chose qui est toujours. C'est comme. Of course, il faut que tu sois diversifié. Hein, tu sais, mais se diversifier autant que toi, comme.
Je trippe.
Peu importe quoi, tu vas pouvoir t'envirer de bord. Là, peu importe ce qui va arriver, situation économique ou sociale ou.
Je pense que c'est important. Je suis maman solo, puis j'ai une fille adoptive qui est rendue à 21 ans, mais je m'en occupe encore un peu. J'ai un petit bébé de 20 mois. Fait que, tu sais, c'est plus juste moi.
Ouais.
C'est pas juste moi. T'sais. Puis, plus jeune, quand j'ai commencé à avoir du succès, je trippais à acheter des choses de marque. Puis, comme, on dirait que je m'étais un peu fait.
C'est vrai, tu m'as acheté un char. Acheter des choses de marque.
J'adore ça.
Ça, c'est ça, le battle rap.
J'adore ça. Mais, tu sais, je pense que sur Instagram, je voyais beaucoup comme dans ma tête, c'était « Ah, si t'as du succès, t'as une sacoche Chanel ou t'as telle affaire, tu sais. » Puis maintenant, je me suis rendu compte que ça m'apportait rien Vraiment, c'était pas l'attention que j'aimais avoir, puis ça m'apportait pas grand-chose. J'aime ça les porter de temps en temps, tu sais. Ouais. Mais je me suis dit, ça me... il y avait quelque chose qui me manquait. Fait que, tu sais, j'ai parti ma propre fondation pour sauver les animaux. Puis je me suis impliquée avec l'hôpital de Montréal pour enfants, avec la jeune que j'ai adoptée, avec un centre jeunesse, puis redonner le plus possible. Moi, quand j'avais besoin qu'on me tende la main, plus jeune, personne ne le fait. Ce qui a fait que je me suis débrouillée. Mais ça aurait pu très mal virer. Puis il y en a plein qui virent mal parce que des fois, tout ce que tu as besoin, c'est juste un peu de support, un peu d'amour, tu sais. Puis.
Encore vraiment un minimum, tu sais.
Fait que je me suis dit, moi, je pense que c'est ça que j'ai envie de faire, tu sais. J'ai plus envie de redonner, de réinvestir. Puis avec le temps, je pense, avec l'âge, quand t'as un enfant, t'as. C'est sûr que t'es plus vieux, c'est sûr que t'es plus fatigué, c'est sûr que. Mais t'as une confiance en toi qui vient avec ça, puis des responsabilités. Puis je trouve que ça fait tellement shiner les femmes.
Ouais.
Moi, ça a changé plein de choses. Puis maintenant, tu sais, je trippe à faire des choses pour ma fille, à lui donner la plus belle vie possible à mes filles, mais à investir, tu sais. À investir, puis voir comme, OK, tu sais, si je pars, ils sont corrects. Genre, ça, ça me fait tripper, tu sais, de dire que ces filles-là, mais je les élève avec des bonnes valeurs. Ma fille, elle travaille pour ma fondation de charité. Pas payée. Tu sais, mes petites, je les amène partout, puis c'est super important qu'ils comprennent que, tu sais, oui, là, vous avez une belle vie, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Puis c'est important de redonner, puis c'est important de s'occuper des autres, puis que, de savoir que tout le monde est égal. T'sais. Fait que j'élève mes enfants d'une façon où je leur souhaite jamais de struggle comme moi j'ai struggle.
Ouais.
Mais c'est important que vous le compreniez, puis vous le prenez pas pour acquis.
Puis que vous êtes au moins consciente que, tu sais, qu'il y a des gens qui struggle, parce que des fois, si t'es juste comme bien, puis tu sais, t'as aucune idée de comment que ça fonctionne dans le monde, tu peux clasher à un moment donné, avoir. Mais tu sais, quelqu'un qui commence, là. Parce que là, t'as dit, depuis ceux qui ont commencé pendant la pandémie, comme ils pleurent, comment ils peuvent faire pour s'adapter? Ceux qui veulent commencer maintenant, c'est pas mort, là, comme domaine. C'est encore le temps de commencer, right?
Mais.
Si t'aimes ça, c'était. Tu parlais de ça comme une passion. J'imagine qu'il y a d'autres mondes qui ont une passion, qui sont jeunes, qui veulent faire ça, tu sais.
Je pense que. Il faut être conscient que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Oh. Être agent immobilier, c'est être entrepreneur. Si t'es quelqu'un qui a de la misère à te motiver, c'est peut-être pas pour toi. Mm-hmm. Si t'es quelqu'un qui, tu sais, que t'as besoin de rentrer au bureau puis de te faire checker puis ci puis ça, ou que tu veux travailler 9 à 5 puis tu veux pas travailler le soir puis tu veux pas travailler la fin de semaine, c'est peut-être pas pour toi. Tu peux pas juste t'asseoir puis attendre que le monde t'appelle. Faut que t'ailles chercher tes clients. Faut qu'il y ait du PR, du networking, des publicités, tu sais. Fait que oui, ça a l'air super cool.
Travaille quand le monde travaille pas, dans le fond.
Oui,
c'est ça.
Ben, parce que eux, quand ils travaillent pas, c'est le temps qu'ils ont pour visiter.
Ben ouais.
Tu sais, fait qu'il faut que tu puisses comprendre ça. Faut que t'offres quelque chose qui soit un peu différent aussi. Donc, c'est très faisable d'aller en immobilier, mais il faut que tu sois extrêmement motivé. Il faut que tu aies des ressources et ou il faut que tu travailles vraiment fort. Fait que souvent, je vais conseiller aux jeunes qui sortent de l'école, garde-toi peut-être un emploi à temps partiel pour ta première année ou associe-toi avec une équipe qui a du succès. Fait que tu es certain d'avoir des listings. Parce que, tu sais, en immobilier, les gens, ils se disent, j'écoute Selling Sunset, j'ai vu qu'ils ont fait une commission de 300 000. OK. Tu commenceras certainement pas à vendre des maisons à 10 millions, OK? On va juste clarifier ça. Mais même si c'était 300 000 ta commission au Québec, là, il y a certainement un autre agent immobilier qui va venir manger la moitié de ça, OK? Fait que là, ton 300 000, c'est 150 000. T'es au Québec, fait que tu vas payer tes impôts, t'es rendu à 75 000, d'accord? Après ça, là, faut que tu payes un 5 à 20 % à ton agence. Après ça, t'as des frais de transaction. Après ça, ton permis de courtier immobilier, c'est 1 500 par année. Ton permis de la chambre immobilière du Grand Montréal, c'est un autre 1 000 par année. Après ça, t'as des frais pour avoir sur la MLS qui est 100 $ par mois. Après ça, t'as...
Finalement, à la fin, tu leur dois 2 000. C'est pas payant.
Mais tu comprends. Puis la fin, c'est que ta maison, là, t'as beau la mettre à vendre. Si ça prend 3 mois à vendre puis que t'as pas vendu pendant 3 mois, t'as zéro entrée d'argent pendant 3 mois. Faut que t'ailles quelque chose en banque ou faut que t'ailles comme un... Tu sais, c'est pas facile de commencer en immobilier. T'sais, c'est pour ça que je te dis, des fois, partir avec une équipe ou avec quelqu'un d'un peu plus chevronné, ça fait du sens. Ou de te garder un petit emploi on the side.
Est-ce qu'il y a du gatekeeping ou sinon? Parce que j'ai un peu l'impression, de l'extérieur en regardant ça, j'ai un peu l'impression que c'est un peu vraiment compétition entre parce que tout le monde veut vendre, je suppose. Sinon, est-ce que c'est vraiment, je sais pas, dans le fond, la communauté entre
des clics,
est-ce que ça sent c'est du clic? Ou...
Ben, c'est sûr qu'on est tous un peu en compétition.
Oui, c'est sûr.
Mais je pense qu'on a une belle vibe entre agents immobiliers. Souvent, j'ai plus vu ça dans des directeurs d'agences.
OK.
Parce que les agences ont peur de perdre leur courtier. Fait que, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des 5 à 7, de dire non, on va pas dans un 5 à 7 de X autre bannière parce que je veux pas que mes courtiers aillent là. Au cas où que cette bannière-là offre
Wow.
Quelque chose de moins cher à mes courtiers. Fait que là, mes courtiers, ils s'en iraient.
Ouais.
Wow. Fait que tu sais, il y a comme cette espèce de ça entre les agences. Tu sais, je me suis fait dire, l'autre fois, je faisais une levée de fonds. Puis j'avais invité d'autres courtiers de d'autres agences à participer, à donner. Tu sais, puis leur dirigeant d'agence a fait, ben non, elle n'est pas dans notre agence, on ne supporte pas son projet de charité. J'étais là.
C'est un peu comme si nous, mettons, il y avait entre les ligues de battle rap. Là. Ouais, comment? Ben oui, avec le rack à basic, tu sais, c'est ça. Ouais.
Fait que c'est weird un peu pour ça. Les agents qui réussissent, je les cheer, puis ceux qui commencent, je les cheer, puis je suis contente pour tout le monde.
Ben oui, c'est ça.
Je pense que mon offre puis mon produit est différente anyway. Je me sens pas vraiment en compétition.
C'est comment tu dirais qu'elle est différente, ton offre, ton produit?
Ben, je suis plus dans le développement immobilier, je suis plus dans le business to business. Tu sais, je fais mes propres projets à moi. Je fais moins de vente, disons, de clients à part famille, amis, proches et tout, là. Donc, tu sais, c'est pas... Je pense pas que personne se sent vraiment en compétition avec moi, là, tu sais.
Puis, comme tu disais au départ, comme c'était pas vraiment nécessairement où est-ce que tu t'enlignais, comme au début de ta vie, mais comme quand tu t'es dit.
De ma carrière,
quand t'es né, là.
Ouais, quand t'es né, ouais. Non, mais c'est ça au début de ta carrière. Mais là, tu comme t'es rendu là, tu as ta réputation, t'as tout, t'as un following, etc. Est-ce que t'as un moment comme précis où est-ce que tu t'es dit, waouh, je suis en train de vivre quelque chose? Tu sais, comme y a-tu un moment que tu as décliqué, tu t'es dit, man, je suis comme, c'est vraiment nice ça, en ce moment, tu sais.
Ouais. Oui, puis non, je te dirais parce que je vis beaucoup le syndrome de l'imposteur.
Okay.
Je me trouve jamais assez bonne. Je me trouve jamais assez. On dirait que je suis tout le temps comme, ah, j'aurais pu faire mieux ou je devrais travailler plus fort ou je devrais.
T'es un record Guinness, yo! T'as le droit, là, de.
Je sais pas. Oui, tu sais, j'ai été très, très, très fière des projets que j'ai faits. Mais quand t'es entrepreneur, ben une fois que ton projet est fini, t'as toujours une espèce de stress, d'anxiété. Tu sais, c'est quoi ton prochain? J'ai pas cette stabilité-là.
Tu sens vite, t'es comme, man, j'ai tout donné là-dedans.
J'ai tout donné, puis après ça, oups, tu sais, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Quand est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Ouais. Sinon, si l'opportunité vient pas, faut que je la crée. Donc, tu sais, très fière de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais tu sais, je voudrais réussir encore plus, mais je voudrais faire des choses qui sont significatives, tu sais, comme c'est niaiseux, mais tu sais, le building qu'on fait sur que je suis en train de faire sur Sainte-Catherine, je pourrais juste le construire le plus beau, le moins cher possible pour faire le plus gros profit possible, mais tu sais, j'ai eu l'idée d'engager un artiste puis faire une grosse murale dessus, un centre de jeunesse à côté, fait que j'étais comme avec espoir, puis il y a comme une photo de ma fille puis une transformation là-dedans, puis comme tu sais, j'ai envie d'embellir la ville où on habite, j'ai envie d'embellir mon quartier, j'ai envie de propager des belles choses sur Instagram, j'ai pas envie de m'ostiner avec le monde, j'ai pas envie d'avoir de drame dans ma vie, j'ai envie de j'ai envie de faire et de créer du beau parce que je pense que à la fin, tu sais, on parle souvent de nos succès. On parle de nos succès parce qu'on est dans l'âge de puis on a du succès, fait que c'est le fun. Mais à la fin de ta vie, il y a personne qui va se rappeler de combien d'argent t'as fait, mais ils vont se rappeler comment t'es fait te sentir. Fait que tu sais, pour moi, de redonner, puis de m'impliquer, puis de faire des expériences pour mes filles, je pense que ça me rend mille fois plus heureuse que n'importe quel succès que je pourrais avoir en business. T'sais. La business, ça reste un travail, je vais me débrouiller. Mais ma famille, c'est vraiment ce qui est le plus important.
Ouais, c'est ça, t'auras pas de deuxième chance à créer des petits êtres humains. Là, t'sais, comme... Écoute, ouais.
Ah, c'est une très belle réponse, parce que tu comme ton... T'en fais tellement beaucoup, tu fais du modeling aussi.
Ouais.
Puis si j'ai vu comme t'avais comme ton annonce sur le Sport Expert dernièrement, si je me
trompe. Ouais.
Moi je trouvais ça trop cool. C'est moi ce genre de moment-là, j'aurais fait rentrer dans le magasin puis juste me voir comme dans l'affiche. Tu vois, moi je serais comme oh ouais, ça c'est trop cool, mais tu sais comme c'est beau.
Donc j'aimerais ça se voir sur une affiche là.
C'est ça, mais
peux-tu arranger quelque chose avec Verso là.
C'est pour ça que
c'est une affiche quelqu'un mettait ça.
C'est pour ça que c'est beau que comme pour elle, c'est comme c'est redonné, mettre de la beauté, je pense que moi à mon moment ça aurait été comme
c'est ça.
Genre, j'aurais appelé ma mère.
J'espère que
ma mère. Plus jeune, j'en avais fait beaucoup, des billboards, des affiches, des ci, des ça. Puis j'ai été mannequin pour des grosses compagnies. J'ai vraiment eu des contrats cool dans ma vie, pour vrai. Mais ça me gênait. C'était comme moi, c'est ma mère. Ma mère, elle allait collecter des photos partout. Écoute, elle allait.
T'amènes de nouveau chance comme maman.
Elle a déjà pris une bannière de 6 pieds pour la ramener chez eux. J'étais comme, non.
Tu vas mettre ça où? C'est pas dans le salon, non?
C'est genre à mes funérailles que tu vas exposer ça, comme, tu sais.
à la couche dans ton.
Oh, man.
Ouais, on dirait que ça me gêne un peu. On dirait que, je sais pas, quand on me fait un compliment ou quelque chose, on dirait que je suis comme, ah, cool, merci. Mais comme, passons à un autre sujet rapidement, soufflet, tu sais.
Ah, mais c'est bon d'avoir cette...
c'est vraiment chier pour les gens là. Vous savez pas qu'est-ce qu'elle parle, mais c'est parce qu'elle venait tellement souvent que là, elle est comme, ah, c'est assez.
Non, ça fait tout le temps du bien.
Il y a des gens qui sont comme, j'aimerais en avoir juste un. Moi, j'ai un record Guinness. Ah, ma face est partout. Je suis comme, ah, c'est beau, mais pas autre chose.
Non, mais je suis, tu sais, comme tu dis, le sport expert, tu sais pourquoi ça m'a rendu fière? Parce que quand j'ai commencé à faire du mannequinat, j'avais 16-17 ans. Puis je me faisais dire que j'étais pas belle, que j'étais trop grosse. Je pesais comme 100 livres, man.
Arc.
On me disait que... Ouais,
c'est... Non, mais ah, ça, c'est gros. Il y a du monde qui disait ça, mais c'était une époque,
je pense. Jure. Dans ce temps-là, c'était différent.
C'était squelettique.
J'ai 39 ans. Là. Fait qu'on s'entend que ça fait plus que 20 ans. L'industrie a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Là. Mais tu sais, moi, on me disait, tu sais, t'as ben trop de courbes, là. Puis,
incroyable.
Ton profil, il est pas beau. Puis là, je me disais, tabarnouche, je vais me faire démolir. Tellement qu'à 17-18 ans, à un moment donné, je suis allée voir mon agence puis j'ai dit « je débarque ». Parce que ma santé mentale là, s'en va en dégringolant. Je ne suis pas laide. Ouais. Fait que j'étais comme là, je commence à faire de l'anxiété, à me comparer. J'aime pas ça.
Ouais, les troubles alimentaires qui viennent avec ça, puis tout ça, ça n'a pas de sens. Comment que les agences...
Par chance, j'ai pas eu ça. Mais j'ai arrêté le mannequinat à 17 ans puis j'ai pas revisité jusqu'à 27 ans. À 27 ans, j'avais déjà ma carrière, j'avais déjà mes investissements. T'sais, j'ai commencé à acheter mes premières propriétés locatives, j'avais 25 ans. J'ai commencé à me créer une stabilité financière qui a fait que quand une agente en fait m'a approchée à 27 ans, moi je lui ai dit super clairement, j'étais comme, je suis intéressée, mais ça va être vraiment pas compliqué. Je fais pas de casting avec d'autres filles. Je veux dire, ça va être quelqu'un qui va me choisir du genre du direct booking. Je veux pas des affaires cheap, je veux pas des affaires comme sexuelles, je veux pas des affaires whatever. J'ai pas besoin de ça pour vivre, je ne vis pas du mannequinat. Mmh. J'ai déjà ma carrière. Fait que j'étais comme, je vais choisir mes clients et je n'ai choisi que les meilleurs clients au Québec, que ce soit les Oitier, Shan, les Adidas, Sport Expert, Sportium, Simons. Tu sais, je me suis fait du fun à faire ça, puis c'était des affaires cool. J'ai fait beaucoup, beaucoup de sport puis de maillot parce que même encore... J'étais considérée un peu petite à 5 pieds 7. Puis j'étais considérée comme un petit peu plus de curve. Puis quand t'as plus de curve, ben normalement, ça pogne plus dans tout ce qui est sport, puis tout ce qui est maillot de bain. Ça remplisse un peu. Mais c'est cool de me dire que, tu sais, à 39 ans, je fais encore des billboards.
Non, mais c'est ça. C'est
avant, là, à 27 ans, t'étais has-been.
Mais tu le vois beaucoup là, quand tu regardes les affaires de Hollywood puis tout comme tu vois les acteurs hommes qui vieillissent, c'est continuellement
des 32 ans commence à jouer une mère, genre t'es comme ben perfect mom, you're soccer puis tout, c'est chiant.
C'est ça, mais tu vois comme les acteurs qui vieillissent, ils font... Non, mais je veux dire comme
non, mais c'est sûr que c'est chiant être une fille dans ce monde là, bro. C'est comme si tu vois les gars, c'est à 40 ans qu'ils viennent commencer à être hot, puis ça doit être super dur. Hein.
C'est rough, mais comme je te disais tantôt, tu sais, je pense. En tout cas, pour moi, dans mon cas à moi, quand je suis devenue mère, on dirait que tout ça ça l'a tellement levé, genre, ça l'a tellement changé les priorités dans ma vie que c'est sûr que, tu sais, quand tu deviens môme, au début, tu te sens moins hot, tu te remets en question, est-ce que c'est ça, tu sais, puis. Bon, ça te prend un temps à te remettre aussi, puis t'es plus fatigué, puis on vieillit, tu sais. Mais je pense que toutes mes... Je pense que j'étais plus instinct. Quand on regarde, là, mettons, je dis, ah, à 20 ans, j'étais vraiment belle, tu sais, ou à 25 ans, j'étais vraiment belle, j'étais naturelle, j'avais pas besoin de... Mais j'étais insécure. Hey, je me mettais des verres de contact vert, puis des extensions, puis du spray tan, puis du... Tu sais, puis je me remettais en question beaucoup, puis je m'habillais trop sexy avec des push-up bras, puis tu sais, tu voulais pas nécessairement...
C'est fou, hein?
Tu voulais de l'attention. Maintenant, je suis comme... Ah, je me regarde dans le temps, j'étais comme, mais t'avais toute ma belle, t'étais toute belle, mais t'étais pas bien.
Tu le vois, toi, sur tes photos, tu te rappelles, tu vois ton regard, tu vois ton...
Ouais.
Tu le vois à quel point, comment t'étais dans ta tête à ce moment-là.
Je sortais dans les bars, puis tu sais, j'étais pas... Je me cherchais, tu sais. Puis maintenant, je suis comme... Peut-être que j'ai, tu sais, vieilli, puis que j'étais un petit peu moins belle, là, mais je veux dire, je suis tellement bien dans ma peau, puis tout ça a tellement plus d'importance. C'est tellement niaiseux, puis ça a tellement plus d'importance, comme... Ça fait même aucun sens qu'on ait été aussi stressé. Fait que c'est ça qui est le fun en vieillissant. Oui, peut-être qu'on perd un peu de la beauté, puis la beauté, c'est éphémère, mais on gagne une paix intérieure, une beauté intérieure qui est irremplaçable. C'est irremplaçable là, comment tu te sens à 40 ans versus à 20 ans. T'sais, je retournerai pas en arrière.
Je suppose aussi que tous tes efforts que tu fais dans la philanthropie et tout, ça doit être comme dans un sens. Mais si tu donnes beaucoup, mais genre pour ta paix intérieure aussi, puis comme tout ça, je suppose.
Avant de chercher l'attention, là, c'est comme ta donne, tu sais, comme t'es. Fait que le switch est fou, c'est vrai, là, tu sais, quand.
Puis tu sais, faire de la philanthropie, c'est faire la paix avec tes blessures du passé aussi. Tu sais, les gens, ils disent, tu fais ça pour les autres. Non, mais je le fais pour moi aussi. Tu sais, je gagne moi aussi à faire ça dans le sens où m'occuper des jeunes ados, mais moi j'aurais voulu qu'on s'occupe de moi. Fait que ça me fait une paix intérieure quand je sais que j'ai aidé quelqu'un puis j'ai changé sa vie, tu sais. Les enfants, ben je suis grateful d'avoir une fille. Ça a été long de l'avoir, ma fille. Fait que quand je vois des enfants malades, je suis contente que ma fille elle soit en santé. Puis après ça, je me dis, regarde, moi, le temps que je mets à faire que ce, peu importe, que ce soit faire un événement, que ce soit faire de l'art, que ce soit whatever que je redonne, tu sais, je suis comme. C'est ça ou quoi? Cette 30 minutes-là ou cette heure-là, je l'aurais mis sur Netflix. Tu sais, j'aime bien mieux faire quelque chose de productif puis que ça redonne à tous, en fait.
Ouais, ça paraît simple quand tu dis, mais c'est rare les gens qui font ça pareil. Là, ouais. Comme...
Mais juste avouer.
Mais c'est vrai que ça, c'est logique, ça fait du sens, mais trois quarts de. Puis je m'inclus, trois quarts de nous. C'est pas qu'on veut pas, c'est que je pense. Tu sais, t'es dans ton petit monde, hein, tu penses pas aller donner cette heure-là, là, mais.
Ouais.
Là, t'as réussi à me faire flécher. Puis merci. Comme c'est juste une heure, là, tu vas faire quoi sur Netflix? Je me vois hier soir. Comme...
mais je pense que c'est pour n'importe quoi. Disons, toi, tu t'entraînes?
Non.
Non?
Non. Merci.
Pas.
Yo, merci. Bon, elle m'entraîne. Je m'entraîne deux, trois burgers.
Tu sais, le monde, quand tu me dis, j'ai pas 30 minutes pour m'entraîner, tu l'as, le 30 minutes dans cette journée. C'est juste que tu choisis de faire d'autres choses. Tu sais, moi, pour ma santé mentale, pour être un exemple pour ma fille, pour me sentir bien à tous les jours, c'est important que je m'entraîne. Je le prends, le 30 minutes. Même si ça veut dire que c'est chez nous avec des poids, en écoutant Baby Shark, ça va être ça, là, tu comprends? Ça, mais je vais le trouver, c'est de la discipline. Tu sais, il n'y a pas de... C'est tes choix.
Ouais.
Tout est un choix dans la vie. Puis souvent, c'est qu'il faut que t'arrive quelque chose pour que le choix vienne. Des fois, il va t'arriver quelque chose, tu vas tomber malade, puis là, tu vas comprendre à quel point c'est important d'être en santé, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Je me suis cassé le bras l'autre fois. Je fais beaucoup de rénovations moi-même. Je suis tombée d'une échelle.
Fiche.
Je me tiens que mon bras droit, là, cassé, là, avec un petit bébé à la maison, là, j'ai fait comme, ah, OK, ta santé, c'est vraiment important. Puis ta sécurité aussi, quand tu fais des choses, t'as pas été regardante, t'as oublié de locker ton échelle, puis c'est une conséquence de...
C'est ça, c'est quand c'est un bras, ça aurait pu être un coup, ça aurait pu être une hanche, ça aurait pu être...
T'sais, investir en immobilier, ça vient d'un coup que j'ai mangé aussi. Dans le fond, je me séparais d'un chum, puis je payais le loyer, ben, une partie du loyer, de son condo, puis toute la bouffe. Puis je faisais toutes les choses pour lui. Puis quand on s'est séparés, ben je pensais avec rien.
Ah.
Puis je suis retournée dans le sol chez ma mère à 24 ans, puis j'ai fait « ouch ». Genre, ça me fait mal. Là. Uh-huh. Là, j'ai dit « je veux plus jamais que ça m'arrive.
Ouais.
Plus jamais. » Fait que j'ai pris tout mon argent, puis je suis allée acheter une maison. Puis ma mère, elle m'a dit « ah, tu déménages? » Puis j'ai dit « ben non, je suis pas capable de la payer. » Fait qu'elle était comme « tu vas faire quoi? » J'ai dit « je vais la louer. » Elle était comme « OK, mais nous, dans notre famille, personne n'avait fait de l'immobilier, personne n'avait de propriété locative. » Fait que j'ai dit, écoute, tu me laisses-tu rester dans ton sol au moins un an? Je vais me refaire, mais comme... Fait qu'elle m'a dit oui. Fait que deux semaines après, j'ai vidé le reste de mon compte en banque pour acheter une deuxième maison. Puis elle a dit...
Tabarnak, tu n'avais de l'argent?
Elle m'a dit, tu déménages? Mais j'ai dit non, j'ai pas d'argent pour la payer. Fait qu'elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, mais je vais la louer.
Ouais.
Mais elle m'a dit, Kim, qu'est-ce que tu fais si tes deux maisons sont pas louées? Puis là, t'as deux hypothèques à payer. Plus les taxes, plus les ci, plus les ça. J'ai dit, je sais pas, maman, je vais faire faillite. Mais si je prends pas de risque, là, je le saurais pas. Fait que là, en ce moment, je vais rester chez toi. Je vais mettre de l'argent de côté qui va me permettre d'avoir un coussin si jamais ces maisons-là sont pas louées. Mais si elles sont louées, ça va bien aller. Puis tu sais, j'avais 24-25 ans dans le temps. Avec l'immobilier, quand tu fais de l'investissement immobilier, c'est rare que tu aies un retour instantané. Parce que tu as quand même des frais qui viennent avec l'achat d'une propriété. Tu as de la taxe de bienvenue, tu as ci, tu as ça. Puis les cinq premières années sur une hypothèque, tu payes des intérêts. Puis après ça, c'est plus le capital qui se paye, tu sais. Ces maisons-là, ça fait donc 15 ans que je les ai. Ben cette année, quand j'ai voulu acheter le building sur Sainte-Catherine, puis que j'avais, il me manquait pour le cash down 150 000, ben j'ai fait « Salut! » Je vais aller voir mes maisons là-bas, je les ai réhypothéquées, puis j'ai payé le cash down de l'autre building.
OK, tu n'as même pas vendu, tu l'as réhypothéqué.
Réhypothéqué, parce que ça fait 15 ans que j'ai des locataires qui payent le capital là-dessus, et la propriété a gagné en valeur. Donc, tu sais, j'ai pas de retour mensuel de ces maisons-là. Ça, c'est pas mal kiff-kiff parce que j'ai des dépenses quand même. Fait que c'est comme s'il existait pas tant dans ma vie, tu comprends? sais, c'est ça m'amène rien. C'est
ouais,
comme,
non, je comprends.
Il se paye.
Ouais.
Mais il se paye, même si ça fait rien au, dans ma poche au mois, puis à l'année, ben ils ont pris
c'est
200 000 devant leur charge. Puis le capital se fait payer par des gens.
Ouais.
Fait que tu sais, moi, quand j'ai besoin d'argent, je fais fou, on rachète ça. Puis celui-là, je vais pas le vendre non plus. Je vais attendre 5 ans. Quand tout va être loué, quand les 16 condos vont être loués, quand le commercial va être loué, il va avoir une valeur à ça pour la banque. Fait que là, je vais dire à la banque, bon, mais garde, donne-moi un demi-million, puis je vais acheter ça avec. Puis c'est comme ça que tu fais. Parce que, oublie pas, quand t'es entrepreneur, là, t'as pas de fonds de retraite, là. T'as pas un plan de pension, t'as pas. Tu sais, j'ai fait une conférence avec des filles l'autre fois, puis ça s'appelait le sommet de la finance au féminin. Et je ne bâche pas là, personne, OK?
Mais... Ouais, tu peux bâcher, là. On parlait qu'on y arrive. Là. C'est un podcast de Battle Rap. Vas-y, bâche. Bâche. C'est qui le pire top 3 des agences au Québec? Tu veux le savoir, là?
J'adore ça. Non, mais le, c'était comme si les femmes, tout leur but, de les femmes, quand ils parlaient sur le panneau, c'était « Moi, mon but, c'est d'être indépendante financière. » Et pour eux, ça voulait dire ne pas payer d'hypothèque sur leur maison. Puis ça, c'était le ultimate goal, tu sais. Puis moi, je suis comme, c'est cool, mais quand ta maison est payée, là, ton argent dort puis tu fais absolument rien là-dessus. Fait qu'on est un panel sur la finance puis comment faire du cash. Fait que genre, toi, ton but, c'est comme tout ton... C'est comme si tu mettais ton argent à la banque puis qu'elle fait comme une petite plus-value. Moi, ça me dérange pas d'avoir des hypothèques. Je vais en avoir partout, des hypothèques. Tu comprends?
Ouais, mais, tu t'en sers comme de...
Hey,
de
tu me dis que j'ai 500 000 dans ma maison puis c'est payé. Allô?
Elle, si elle veut...
Je vais sortir là, le 300 000 là, puis je vais acheter d'autres choses avec. Puis, je vais, t'sais, puis ça va ramener puis je me fais une retraite avec ça. T'sais. Fait que on a toute une façon, je pense, différente de penser à l'indépendance financière. Je pense qu'il y en a beaucoup que pour eux, c'est juste être... pas stressé puis pas avoir de stress parce que c'est sûr qu'une hypothèque c'est stressant, c'est sûr que tu sais faut que tu le payes puis faut que tu t'arranges puis mais je veux dire high risk high rewards.
Ouais.
Enfin, c'est ça aussi.
C'est nice, André, j'ai comme l'impression que tu laisses pas le doute trop longtemps dans ta tête, genre comme dis genre quand ça s'en vient, c'est comme
si l'opportunité vient puis que ça fait un peu de sens là, je la prends. Ça veut pas dire que j'ai toujours fait des bons coups, tu sais, j'ai investi dans un projet qui finalement a fait faillite, j'ai eu comme 70 000 piastres qui a été gelé là pendant 4 ans. J'ai pas fait d'intérêt là-dessus, j'ai pas pu l'utiliser, j'ai été pognée dans ce loophole-là. C'est pas tous des bons coups, mais j'ai fait d'autres très bons coups aussi. Puis le building sur Sainte-Catherine, j'étais super fière quand on l'a eu. On a voulu s'autofinancer la construction. La COVID est arrivée, les prix ont monté, la main-d'œuvre, tatata. Là, écoute, on était rendu à 800 000 de plus que qu'est-ce qu'on avait budgété au début.
What?
Je me suis dit, écoute, je vais éclater. C'était long avoir les permis de la ville. On les obtenait pas. On se chicanait avec la ville. On se faisait défoncer le building. On avait des squatteurs qui rentraient. La police m'appelait à 3h du matin. J'étais comme, je veux vendre, je veux m'en aller. Je vais faire faillite. Je vais faire faillite à cause de ce money pit-là. Fait qu'un moment donné, on est deux là-dedans. Fait que j'ai regardé mon partner puis j'ai dit, écoute, on vend. On va essayer de le vendre sans le mettre à vendre, là. Pas que la banque le sache. Hein.
Ouais.
On va comme essayer de le passer à travers nos contacts. Fait qu'on a reçu 2 offres d'achat.
Tu sais qu'on est dans un podcast, hein? C'est comme pas que la banque le sache. D'un coup que...
Non, mais c'est fini.
OK,
ça, c'est
bon.
Réglé. c'est réglé. On l'a comme... Mais ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait juste... low-key, on aurait dit, bon, mais vous reprenez notre hypothèque puis nous, on s'en va. Mais c'est ça, on a reçu 2 offres qui étaient moins chères au final que qu'est-ce qu'on avait payé en plan en... Là, j'étais là, OK, on va perdre, là. On va perdre une couple de 100 000, là, comme...
Wow.
C'est plate, là.
Ouais.
C'est plate.
C'est plate.
Ouais, c'est plate en crime.
Puis il y a eu comme 2-3 semaines où, tu sais, j'ai pas dormi, j'ai fait de l'anxiété, puis j'étais comme, ben c'était un mauvais move. C'était un mauvais move, mais en même temps, ça arrive, tu sais, ça peut arriver.
Ouais.
Puis 3 semaines après, là, mon partner, il est quand même très débrouillard, puis, tu sais, lui, il checkait avec d'autres banques si on pouvait se faire financer plus la construction, plus et plus ça, puis il a vraiment bien joué ses cartes. Finalement, 3 semaines plus tard, on a reçu une offre d'achat plus cher que tout ce qu'on avait payé. On partait avec un profit. Mais la même semaine, la banque nous a aussi donné tout notre financement pour la construction, tout ce qui manquait.
Wow.
Fait que là, t'as 2 choix.
Uh-huh.
Est-ce que tu fais un profit qui est correct pour l'avoir tenu 1 an? Correct. Mais tu sais. Ou tu tapes les 2 prochaines années de construction, mais le profit dans 5, 6 ans, 10 ans va être exponentiel. Mais tu sais, c'est du stress. C'est un stress financier. Ben, j'ai pris ça. Je me suis dit, high risk, high reward, let's go, on continue, man. On l'a eu, notre offre anyway, fait que si jamais on veut vendre entre-temps, on rappelle ce gars-là. Mais là, c'est sûr qu'il veut maintenant qu'on a un locataire.
Ben ouais,
on a essayé que... Screw that. Fait que tu sais, on continue, mais tu sais, si t'aimes le stress, la vie d'entrepreneur, c'est pas pour toi. Ouais, t'aimes pas le stress.
Si t'aimes pas le stress,
la vie d'entrepreneur, c'est pas pour toi, tu sais. Fait que c'est juste de garder ça en tête quand tu fais des moves. C'est pas toutes des bons moves, on fait toutes des erreurs, on se plante toutes. Je me suis plantée probablement plus que j'ai gagné, mais à chaque fois, je me dis...
Tu penses, toi?
Ouais, je me suis plantée souvent, mais ça me... C'est drôle, je suis très compétitive, puis quand je perds, je suis très rapide à mettre ça dans une boîte, faire qu'on passe à autre chose. Je suis une personne qui est très stoïque, qui est très droite avec ses émotions. Je suis pas comme ça ever. Je suis comme ça. Fait que quand il y a une situation paniquante qui arrive, moi, je suis très terre à terre. Tu sais, je vais juste analyser les solutions. Si j'ai pas de solution, je vais demander de l'aide. Si j'en ai pas, puis il y a pas d'aide, puis qu'il y a rien à faire, je fais juste comme cool, c'est fini. It's a loss, on passe à autre chose. Puis j'ai une amie qui m'avait dit à un moment donné, on parlait de ça, puis elle m'avait dit in life, you don't fail, or you fail forward. Fait que même si tu t'es planté, mais t'as appris en titi en te plantant de même, tu sais. Fait que la prochaine fois, tu feras pas cette erreur-là. Fait que, tu sais, dans ma tête, j'ai jamais l'impression de perdre.
Ouais.
Tu sais, je suis comme, OK, cool, mais la prochaine fois,
apprise,
je
veux pas,
à chaque fois. Fait que, tu sais, je le vois pas comme négatif. Puis, tu sais, quand même, quelqu'un me dit.
Parce que t'as pas tout mis tes œufs dans le même panier. Parce que quand tu perds, la seule chose que t'as travaillé toute ta vie, c'est comme, là, c'est un lost. C'est un vrai fail. Ouais. Tu sais, c'est dur de faire next. T'as plus rien.
Ouais.
C'est. Mais ouais, généralement, je comprends que ça, c'est...
Non, c'est vraiment honnête. On va avoir quelques questions. On fait une série de questions de Raphaël?
Ben ouais, si tu veux. Attends-tu?
Ouais. Là, ça va être simple. C'est un ou l'autre.
OK.
Ouais, c'est ça. C'est un ou l'autre. Piscine ou plage?
Plage.
Chat ou chien?
Chien.
D'un chien, ouais. Hein? Été ou hiver?
Été.
Ça dépend où dans le monde, chum. Là, cocktail ou vin?
Vin.
Vin, sucré ou salé?
Salé.
Penthouse ou chalet? Mmh. J'habite dans des chalets, mais je vends des penthouses. C'est comme si c'est
ben
dur.
Les deux, un bon mix des deux. Pourquoi pas un penthouse downtown puis un chalet en Estrie?
Imagine un chalet downtown puis un penthouse en Estrie.
Aussi.
Hein? Chalet, mon gars, en haut de la tour. Ping! Bois rond.
Tu vas aller au lac, tu te fais une glissade qui part direct. Wow. Dans ça serait génial.
Ça serait malade. Noël ou Halloween?
Noël.
Nike ou Adidas?
Nike.
Oh, yeah. Comédie ou drame?
Comédie.
Faire des achats en ligne ou en magasin? Encore là, ça dépend ce que t'es dans le monde.
Ben, je le fais plus en ligne.
Ouais. Photo ou vidéo?
Photo.
Ouais.
Nice. Mais sur ce, vu qu'on a des problèmes techniques...
Ben ouais, c'est ça.
On va
où est-ce qu'on va te suivre? T'as-tu des choses qui s'en viennent si on veut aider à ta fondation?
Je poste tout le temps là-dessus quand j'ai des événements. J'ai un déjeuner, ça s'appelle Déjeuner en novembre. Ouais. Alors, vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram à mon nom, donc Kim Bruno avec un E-A-U. Et il y a toujours des petits projets qui s'en viennent, donc en fait, c'est de rester à l'affût. Mais faites-vous confiance, prenez des risques, puis soyez gentils. Je pense à ça, c'est mon message. Oui,
magnifique.
De toute façon, on va mettre tous les liens de ta fondation puis de ton Insta puis tout ça sur la page, of course. Allez aider. Je pense que c'est beau de vouloir aider de ton bord, mais s'il y a personne qui embarque dans tes choses, ça ne mène à rien.
On fait ça en équipe. Ça ne me dérange pas de faire tout le legwork en arrière. Des fois, c'est juste d'envoyer de l'argent. Des fois, c'est d'être présent. Des fois, c'est de juste venir faire le party.
Ouais,
mais au moins, tu fais pour une bonne cause.
Moi, un party pour une bonne cause, je suis dans avec ça.
C'est jamais plate. On essaie de faire des choses originales, en tout cas.
En tout cas, ben, bravo.
Merci.
Bravo. Moi, je dois dire, pour mon mot de la fin, lorsqu'on cherchait des invités et j'ai appris de ton record Guinness, de tout ce que tu faisais, j'étais vraiment impressionné par tes achievements. Mais je suis content d'avoir suivi mon instinct, de t'avoir invité, parce que honnêtement, maintenant, je peux dire, je suis impressionné même par la personne qui est derrière tout ça. Alors, merci d'être venu ici au podcast.
Ouais. Puis moi, je trouve que ce qui est crazy de ce que j'ai appris, c'est qu'en business, tu peux être gentil et un génie. Ouais, tu voulais que je rime? Voilà, crazy business.
C'est pour ça que j'ai gagné notre battle. Mais tout ça.
Tu peux. Yo.
Alors, tout ça. Merci d'avoir écouté le podcast.
Merci
d'être venu. C'était un autre podcast de Sors de ta niche avec d'autres moins.
C'est votre boy Bouchard, Kim Bruno.
Merci à Félix aussi.
Non, pas besoin de le remercier.
il est payé pour ça. Là. C'est le seul qui est payé.
Juste nous dire si tu penses que c'est vraiment un battle rappeur ou si c'est un personnage fictif.
J'adore.
Juste avec le nom.
Okay. J'adore ça.
Shaq the Wizard.
C'est sûr, c'est un vrai.
Ouais. Avec quoi, c'est un battle rapper?
Ouais.
Ouais, bravo. Maître Renard.
Mais c'est un fin finot, Maître Renard, dans les contes. Fait que oui, je pense que c'est vrai.
Nice, bravo. 2 en 2. Le professeur.